Peut-on résister au monde par la lecture ? Si c'est le cas, Yannick Hennel serait un des avocats du droit à la fiction, celle qui permet d'avoir le dernier mot face au mystère de l'existence. Dans son dernier roman, Le trésorier payeur, il joue avec les apparences. Derrière les traits du personnage principal, un banquier, se cache en fait un anarchiste avec pour mission de défendre les surendettés. Une quête d'absolu, déjà au cœur de « Tiens ferme ta couronne », publié en 2017, le prix Médicis sacré alors un autre narrateur, Jean Deschelles, et son inépuisable souhait de porter à l'écran la vie de Herman Melville, un héros qui avait navigué par les océans et les bibliothèques. Parce que Yannick Hennel a dit un jour qu'il y avait toujours d'autres livres dans un livre, on le retrouve pour en parler à l'occasion de la saison 2 du « Qu'est-ce qu'il lit du monde des livres ?» Bonjour Yannick Hennel.
Bonjour.
Bienvenue dans notre studio, installé au cœur du salon du livre du Mans Faites Lire. Je suis ravie de vous recevoir pour parler littérature, mais surtout bavarder du goût de la lecture, celle qui a sans doute jalonné votre fabrique d'écrivains. Est-ce qu'il y a un livre où vous vous êtes dit « j'ai envie de faire la même chose » ?
Alors ça, oui, mais tout petit, en fait, j'ai commencé à recopier des pages des livres que je lisais. Et je ne me suis pas proprement dit que je voulais devenir écrivain, mais je me souviens que L'île mystérieuse de Jules Verne et le Nautilus, enfin le capitaine Nemo, me fascinaient au point que d'une part, je m'identifiais, bien sûr, mais je recopiais en essayant de trouver le trouble de l'imagination qui faisait que ça arrivait, en fait.
Que vous y croyez.
J'étais fasciné par l'idée que ça arrive à travers des mots, enfin... que les mots Capitaine Nemo, enfin, c'était bien sûr un personnage, mais que c'était deux mots, en fait.
Ça, vous avez quel âge, à peu près ?
Ah, je ne sais plus, j'ai 10 ans, un truc comme ça, pas beaucoup plus. Parce qu'après, j'ai lu beaucoup de Jules Verne, ça m'a travaillé. Et puis le Capitaine Nemo, il traverse plusieurs livres, enfin. Mais je me souviens de ce truc de copiste, en fait.
Qu'est-ce que ça vous apporte ? Encore aujourd'hui, peut-être ?
Alors aujourd'hui, je recopie plus des livres, mais j'écris à la main, figurez-vous, toujours. Parce que ce geste initial a eu lieu au XXe siècle, quoi, dans les années 70, 80. Et ça ne me viendrait pas à l'idée d'écrire un livre sur un ordinateur, enfin... Même si je m'y suis fait, évidemment, je ne suis pas non plus archaïque à ce point, et j'aime bien le clavier, et je mets du piano en même temps pour mimer ça. Mais je prends toujours, dans les romans que j'écris, j'injecte sans cesse d'autres livres, effectivement, enfin, des livres que j'aime, des citations, mes personnages lisent des tas de livres, vous savez, comme dans les films de Godard, où ils sont toujours en train d'ouvrir un livre. Voilà, donc ça m'est resté, ça, de l'enfance.
Ouais. On parle parfois de la sonorité des mots, oui, il y a une sorte de toucher des mots, vous avez besoin de mettre en forme.
Oui, et puis il y a une sensorialité, la matière des phrases, enfin ça m'anime, ouais. C'est une sensualité de la presque poétique au fond. J'écris des romans parce que mais je me vois comme un poète au fond, un poète narratif.
Est-ce que Jules Verne c'était les livres dont vous imaginiez être les héros ?
Alors pas vraiment parce que je voyais bien qu'ils étaient tous un peu cinglés. Et dans Jules Verne, et qu'ils étaient en lutte avec le monde, avec la matière. Et puis, il y avait 2 ans de vacances, ça me fascinait, 2 ans de vacances, je ne sais pas si vous l'avez lu, où c'est des enfants qui sont... Ben, ils font naufrage, et ils restent sur une île pendant 2 ans. C'est Robinson Crusoe, puissance 15. Je ressentais déjà enfant la violence intrinsèque à cet univers. Ce qui me fascinait, c'était l'aventure elle-même, voilà, comme plus tard dans Moby Dick. Ça a été vraiment Moby Dick, un livre qui a changé ma vie, en fait.
Comment ?
Ben, je l'ai lu 2-3 fois, c'est comme Proust, c'est un rendez-vous avec soi-même. Enfin, moi, je l'ai lu quand j'étais enfermé au pensionnat militaire de La Flèche, c'est pas très loin d'ailleurs, et en revenant au Mans, ça me fait un peu quelque chose. Parce que mes parents m'ont envoyé, alors que j'avais 14 ans et demi, ils vivaient loin, enfin, en Afrique. Et donc j'y étais pendant 3 ans, et on marchait au pas, enfin, c'était un univers un peu carcéral, je dirais. Et moi, j'ai découvert les chants de Maldoror, de Loutre-Amont, Rimbaud, Baudelaire, et surtout Moby Dick, qui m'a apporté, je dirais, qui m'a octroyé une forme de jouissance qui est celle du grand roman libératoire, enfin, aux prises avec l'univers, le roman métaphysique. Enfin, c'était plus beau que la Bible, enfin, parce que c'était, il y avait un fou, le capitaine Ahab, et il y avait surtout un jeune homme auquel je m'identifiais, qui est pour moi le frère de tous les narrateurs de tous les livres du monde, qui est Ismaël. Qui est le seul survivant, la baleine l'épargne quand même, enfin, c'est lui qui raconte l'histoire. Et cet Ismaël, qui est le fils du désert dans la Bible, c'est celui que Abraham a eu de manière adultérine avec la servante, qui va fonder l'islam d'ailleurs. cet Ismaël, c'était déjà un dissident. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose dans la littérature que j'aime, qui relève de, à la fois de l'effraction et d'un monde qu'on n'accepte pas tout à fait. C'est le monde de la main gauche, si je puis dire. C'est un truc un peu démoniaque et aussi révolté, voilà.
Est-ce que justement, il y a une fin dans un livre que vous n'avez à ce jour jamais accepté?
Alors, c'est drôle que vous me posiez cette question parce qu'il m'est arrivé pendant longtemps, j'avais cette mauvaise habitude de ne pas terminer la lecture des livres. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si j'avais fait une psychanalyse, j'en aurais parlé passionnément à mon psychanalyste imaginaire. Mais donc, je me posais la question, en même temps, je m'en fous. Je me dis que c'est sûrement, je sais pas, j'ai pas envie que ça finisse, quoi.
Encore aujourd'hui, vous ne finissez pas les livres.
Ça m'arrive de m'arrêter à deux pages de la fin.
Pas par ennui, par.
Mais non, parce que de toute façon, moi, je lis pas de polar. Vous voyez, on s'en fout de savoir qui a fait quoi. Enfin, il y a pas de résolution. Enfin, quand vous lisez Dostoïevski, enfin, je veux dire, vous savez bien que Raskolnikov, il a tué la vieille dès la 50e page. Non, je crois que j'ai peur de. Ça doit être une très vieille peur enfantine d'être abandonné par le livre. Je sais qu'il me reste, voilà, une petite réserve, voilà.
Et vous avez la même peur quand vous mettez fin à votre livre?
Alors non, bizarrement, je soigne mes fins, disons. Enfin, je soigne chaque phrase. J'aime reculer effectivement la fin de l'écriture le plus possible, mais vous savez comment c'est. On est dans un monde où, quand on a la chance d'avoir un éditeur, ce qui est mon cas, on programme aussi la parution du livre, donc il faut bien le rendre à un moment. Moi, je me mets dans un état presque catastrophique, c'est-à-dire j'écris vraiment la fin au dernier moment. Je me souviens d'un livre qui s'appelle Cercle, que j'ai mis 5 ans et demi à écrire, et j'ai écrit la dernière page. J'avais rendez-vous à 10h du matin avec mon éditeur pour remettre le manuscrit, je l'ai fini à 9h, vous voyez. Parce que sinon, l'intensité qu'il doit y avoir à la fin n'aurait pas été là si j'avais très calmement écrit ça, en étant très à l'avance et en prenant mon temps. Il y a finir un livre, ça relève de la, ça doit relever de quelque chose comme à l'opéra, enfin, d'une louange au langage. Enfin, à la limite, il faudrait que ça finisse comme écrivaient les Grecs anciens, enfin, par une invocation à la déesse, je ne sais pas. Bon, moi, je fais ça de manière contemporaine.
Quel est le livre que vous invoquez à tout prix lorsque vous devez choisir un cadeau pour des proches?
Alors moi, celui que j'offre tout le temps, c'est La vie matérielle de Marguerite Duras, parce que j'aime beaucoup la petite édition Folio où il y a sa liste de courses dessus, donc j'adore, parce que on parlait tout à l'heure d'écrire à la main, et là, il y a écrit sel fin, poivre, sucre, café, vin, pommes de terre, etc. Bon, c'est assez rigolo. Mais plus sérieusement, c'est un livre qui est composé d'une multitude, c'est un montage, enfin, d'une multitude de petits textes sur la vie très concrète, enfin, la vie physique
de
l'écriture. On est loin de Moby Dick, mais dans Moby Dick, il y a aussi une mystique de l'écriture. Enfin, c'est comment est-ce qu'on écrit Moby Dick, enfin. Et là, je peux vous en lire une petite page.
Allez-y.
C'est même pas une page, c'est une phrase, une longue phrase. J'aime de plus en plus Duras. Ça fait 30 ans que je la lis. Au début, je n'étais pas tout à fait passionné. Mais maintenant, je sens qu'elle a un savoir, en fait. Parce que les écrivains sont des sorciers aussi, ou des sorcières, mais des sorciers doux, qui ont un savoir de biais sur l'existence. Il ne s'agit pas de souffrance, mais de la confirmation d'un désespoir initial, d'enfance presque, on pourrait dire, juste comme si tout à coup on retrouvait la connaissance de l'impossible qu'on avait à 8 ans, devant les choses, les gens, devant la mer, la vie, devant la limitation de son propre corps, devant les arbres de la forêt auxquels on ne pouvait pas accéder sans risquer de se tuer, devant les départs sur les paquebots de ligne comme pour toujours, toujours devant la mère qui pleure le père mort dans un chagrin que l'on sait enfantin et qui cependant peut nous l'enlever. Vous voyez, c'est cette houle, du coup on est à nouveau dans Moby Dick, c'est Duras, mais il y a cette houle, cette matière océanique des phrases. En une phrase, on peut tout mettre, en fait.
Alors justement, est-ce qu'il y a une description qui vous revient d'un personnage, d'un paysage, dans un livre, qui plante un décor où vous aviez, alors je ne sais pas si c'est l'intention, mais où vous aviez l'impression d'y être?
Alors, ben, j'ai souvent l'impression d'y être. Moi, c'est comme au cinéma, je suis très bon public et je me laisse complètement emporter par les livres. Alors, il faut que ce soit un emportement stylistique. Enfin, la plupart des livres, comme tout le monde, me tombent des mains, je m'en fous. Enfin, mais s'il y a une phrase, enfin, s'il y a une vibration, enfin, si c'est vraiment de la littérature, là, j'y suis. Enfin, je me souviens comme ça me vient Tess d'Urberville, de Thomas Hardy. J'avais vu le film avec Nastassia Kinski, j'étais un peu amoureux d'elle, comme ça, enfantinement, adolescentinement. Et dans le livre, j'étais stupéfait parce que la description de son visage, c'était exactement elle. Bon, il y avait une cristallisation, c'est quand même le livre sur le sacrifice d'une femme. C'est comment la société va s'emparer d'une femme, la déchiqueter. Enfin. Il y a ça, il y a Les détectives sauvages de Roberto Bolaño, que je lis une fois tous les deux ans, est un livre qui me soulève, vous voyez, qui me donne des vitamines cérébrales.
Pourquoi vous le relisez? Pourquoi vous aimez relire?
Parce que c'est un livre sur la littérature et sur le fait que c'est une bande de jeunes poètes à Mexico qui essayent d'écrire et ils se retrouvent dans les cafés, ils se saoulent, ils parlent, ils font l'amour, bon, ou alors leur vie est nulle, mais ils sont obsédés par la littérature, par la poésie, ils se lisent sans cesse leurs poèmes. D'une part, ça me rappelle ma passion permanente, le fait que la littérature est toujours jeune, même Duras, quand elle écrit L'amant, c'est une vieille dame, mais c'est la plus jeune des écrivaines. Et ça me rappelle aussi, ça me renvoie au fait que ce qui compte pour moi, c'est le désir, c'est-à-dire le déclenchement des choses. La littérature, c'est une manière de garder le désir à l'état de désir. Enfin, vous voyez, c'est le passage à l'acte, soit lire, soit écrire. Il y a un moment, c'est presque la même chose. On ne cède pas sur son désir, on le maintient comme étant la seule valeur. Et contre la société, au fond. Et Les détectives sauvages, c'est un hymne à ça, enfin, un hymne jubilatoire. Enfin.
Justement, faire relire, vous pourriez faire relire vos textes à un écrivain, une écrivaine de votre choix?
L'un de ceux que j'aime le plus au monde, parce qu'il me fait penser, en fait, il me fait aimer, c'est Georges Bataille. Et aussi parce qu'il ne s'est pas cantonné dans le roman, enfin, c'était aussi un penseur, il a tout tenté. Alors lui, j'aimerais, peut-être plus simplement, j'aimerais pas l'embarrasser avec ce que j'écris, mais le rencontrer, voilà. C'est une rare personne parmi les écrivains dont il me semblerait que passer 5 heures avec lui, à boire du vin et à parler, à rire, à se montrer des choses qu'on aime... Ça pourrait être surprenant, voilà.
Et vous pourriez lui montrer ce livre de Pierre Michon que vous avez choisi, qui est le livre qui, pour vous, ce que vous me disiez, vous réconcilie avec les distances.
Alors oui, c'est un livre, je lui montrerai par exemple, j'apporterai plein de livres, il y aurait celui-ci. J'ai choisi La Grande Beune, effectivement, de Pierre Michon, parce qu'il m'est arrivé à une époque d'être prof, collège, lycée, quelques années, et moi, j'aimais bien qu'on étudie, même pour des enfants qui avaient 12-13 ans, des écrivains vivants, en fait. Parce que la littérature, bon, Victor Hugo, c'est merveilleux, Rimbaud, c'est encore plus beau. Mais Pierre Michon, Jean Echenoz, Emmanuel Carrère, ils sont là. Et je les invitais, et les enfants étaient émerveillés de voir que la littérature, c'est vivant. Fin. Et bon, la deuxième chose, c'est que la phrase de Pierre Michon, je vais en lire une, qui fait une page, elle est archéologique, enfin. Elle draine avec elle, me semble-t-il, quelque chose d'immémorial. Enfin, on remonte le temps et l'espace à travers son phrasé. Et je trouve que, bon, voilà, le langage de la littérature, ça a cette vertu-là, enfin, de nous réconcilier avec la vie, ou plutôt d'aller approfondir ce que c'est que l'existence. Alors voici la phrase de Michon. C'était Lascaux, au moment où les célibataires accroupis épousent leurs pensées, conçoivent, brise les bâtons d'ocre et touille le charbon de bois dans une flaque, se taise, le chapeau à andouiller posé à côté d'eux. Et peut-être qu'alors ils le prennent et le font tourner dans leurs mains, le chapeau, que doucement ils le regardent et pensent à leur petite enfance, pensent fortement qu'ils auront à mourir, qu'ils aiment les femmes et manger, bluffés avec des andouillés sur la tête, mais que des dieux cléments et insatiables en cet instant les regardent, respirent par leur bouche, ont leur joie, et vont tout à l'heure les jeter avec cette joie contre ces murs, debout, incertains de leur propre volonté, mais sûrs de leurs mains, traçant de grandes vaches rouges plus blessées que des femmes, comme elles, bondissantes et joyeuses, traquées.
Il y a dans ce passage un chapeau comme un appel en fait au souvenir. Est-ce que vous, il y avait un livre d'enfance que vous aimeriez relire aujourd'hui?
Au fond, pour moi, les livres sont tous destinés à l'enfance. Je veux dire à l'enfance qu'on retrouve en soi. Pas nécessairement celle qu'on a vécue, mais c'est vraiment... Il y a une phrase dans Les Illuminations de Rimbaud, il dit « Jeunesse de cet être-ci, moi ». L'enfance ou la jeunesse, c'est quelque chose qui est... qui s'auto-féconde, enfin, qui est là. Donc, c'est pas l'idée de retrouver des livres de ma jeunesse, je m'en fous un peu, je dois dire. Mais en revanche, faire revenir dans certains livres qu'éventuellement j'avais lu enfant ou pas, quelque chose de, ce, de cette innocence, oui. Alors si, quand même, Dickens, Oliver Twist. Bon, mais Oliver Twist, ça me fait pleurer. Enfin, je n'ai pas envie de relire ça, c'est tellement... C'est le monde de l'injustice, enfin, les petits orphelins, je m'en souviens encore, enfin. Et encore que je m'apprête à lire Les Grandes Espérances de Dickens, là, dans l'édition Tristram, une nouvelle traduction, parce que je ne l'ai jamais lu. Et Dickens, quand même, c'est... Oui, c'est ça, ça remonte, ça revient. Ouais.
Pleurer lors d'une lecture, ça vous effraie ?
Non, mais je n'ai pas envie de me faire du mal. Enfin, la plupart des grands livres sont terribles, en fait. Moi, je suis un lecteur fanatique de Dostoïevski, par exemple, et on n'est pas indemne quand on lit Dostoïevski. Et puis, je ne sais pas, je ne suis pas rétif à me taper dans la vie des expériences un peu violentes ou dures, sachant que je vais en faire de l'écriture. Ça, j'y vais, en fait. Je vais au charbon, disons. Il m'est arrivé de suivre un procès de terrorisme parce qu'il s'agissait de faire la chronique tous les jours. Enfin, c'était aussi pour écrire, pour ouvrir l'écriture au témoignage, enfin, au témoignage le plus ardent. Non, mais pleurer, c'est autre chose. C'est la tristesse, en fait. Je dirais, c'est paradoxal que me confronter au mal, ça me fait moins peur que me confronter à la tristesse. Voilà.
Est-ce qu'il y a un livre, justement, où cette confrontation avec la tristesse vous a fait arrêter plutôt que prévu ?
Joan Didion. J'ai pas supporté, ouais. Franchement, c'était trop pour moi.
Lequel ?
Les deux, celui où elle perd son mari, L'année de la pensée magique, je crois que c'est ça. Et j'avais acheté également Le Bleu de la Nuit, qui est un titre. J'avais été très surpris parce que j'écrivais un livre qui s'appelait Le Bleu de la Nuit. Et je me suis dit, mince, bon, j'ignorais tout à fait que le titre était pris, donc j'ai arrêté d'écrire ce livre. Et c'était un livre sur la perte de sa fille. Et là, c'est trop pour moi aussi. Je veux dire, je peux m'infliger beaucoup de choses, mais...
Pas l'écriture du deuil.
Pas le deuil d'un enfant, non. Ça, non.
Merci Yannick Haenel. Votre dernier roman, Le Trésorier Payeur, est publié aux éditions Gallimard. Retrouvez tous les épisodes du Qu'est-ce qu'il lit sur lemonde.fr et les plateformes de streaming. À bientôt et bonne lecture.
Bonjour à vous qui nous écoutez. Vous avez des choses à dire ? N'ayez pas peur et prenez le micro. Que vous aimiez discuter avec des amis ou que vous ayez une envie débordante de partager votre passion ou de développer votre business, faites-vous entendre. Avec Acast, rien n'est plus facile que de lancer son propre podcast. Lancez-le, développez-le et générez des revenus en rendant votre podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous sur acast.com pour vous lancer. Et c'est gratuit.